RJB 12h15, le journal Séverine Boé.
Le magasin de seconde main Enrobe a ouvert ses portes en fin de semaine dernière à Bienne. Sa particularité, il est géré par des apprentis de la filiale célandaise de l'Eube. Explication. C'est un double nom qui pourrait sortir des urnes le 22 septembre prochain. Du moins, c'est ce que dit le dernier sondage SSR paru aujourd'hui. De gros clivages sont observés dans certaines catégories de la population. Premier débat de la présidentielle américaine entre Kamala Harris et Donald Trump. Retour sur ces 90 minutes de débat en compagnie de notre correspondant aux États-Unis. Météo, c'est un temps nuageux et humide qui nous accompagne. Dans l'après-midi, les fréquentes pluies vont se généraliser et il fera entre 11 et 15 degrés. Les apprentis jouent les chefs chez l'Eube. Vendredi passé, le magasin de seconde main Enrobe a ouvert dans la filiale biennoise. On y vend des chaussures de sport et des accessoires comme des sacs à main, des lunettes de soleil ou encore des petits bijoux. Les explications d'Estelle Herman.
La particularité de Enrobe, tout est conçu et géré par des apprentis. Cette idée vient du CEO de l'enseigne, Ronald Christen, inspiré lors d'un voyage d'affaires à New York. Matteo Riedo participe à l'expérience. Quand il est au magasin, il devient chef marketing et remplaçant de la CEO. Il nous explique l'objectif d'un tel projet.
Ronald Christen, il veut voir comme les jeunes font ça seuls. Il veut voir comme les jeunes font une entreprise seule. Et aussi pour nous, on veut augmenter la notoriété.
Quand Matteo Riedo a pris connaissance du projet, il a d'abord craint les responsabilités qu'un tel travail implique.
J'étais choqué au début, mais je pense que moi et tous les autres apprentis, on a le plaisir de faire ça. C'est une incroyable chance.
L'idée maintenant que ceux qui proposent des articles de seconde main passent à l'Enrobe. Il est possible de négocier un prix de vente minimum avec les employés. Les chaussures et accessoires sont ensuite présentés dans le magasin pendant 90 jours. S'ils sont vendus, une partie revient à Enrobe et une autre aux propriétaires initiaux.
À noter que ce concept est une première en Suisse. Toujours dans la cité célandaise, l'initiative communale Un salaire pour vivre a abouti, indique le conseil municipal aujourd'hui. Le texte déposé le 30 août était muni de 2323 paraphes valables, alors qu'elle devait être signée par au moins un 15e des ayants droit, soit 2028 personnes. Un examen matériel du texte de l'initiative va maintenant être effectué. Si l'initiative est jugée valide, elle devra être mise en œuvre ou soumise au vote populaire dans un délai de 2 ans à compter de son dépôt. Ça fait 160 ans que la loge de franc-maçonnerie de Bienne existe. Les membres se réunissent tous les jeudis pour des tenues rituelles, des soirées dédiées à l'instruction des nouveaux membres ou des conférences. Ce soir à la résidence au Lac, la loge propose une conférence publique pour revenir sur leurs 160 ans à Bienne. Thierry Boya, ancien maître en chaire, explique ce que signifie pour lui être franc-maçon en 2024.
C'est surtout un engagement personnel vis-à-vis de soi-même. À l'heure actuelle, on est submergé par les réseaux sociaux, on est submergé par plein d'informations qui viennent de partout, mais on a peu le temps et la possibilité de partager avec des personnes qui sont là pour vous écouter, pour essayer de comprendre ce que l'on essaye d'exprimer et pour pouvoir en débattre après si le sujet est intéressant.
Vous parliez plutôt de réseaux sociaux. Est-ce que la franc-maçonnerie, elle parle à la jeunesse aujourd'hui?
Je pense que oui. Oui, puisque nous initions régulièrement des frères relativement jeunes par rapport à mon âge à moi. Mais c'est pas des jeunes de 20 ou 25 ans. C'est souvent des personnes qui ont déjà une belle expérience de vie et que, aux alentours de la quarantaine, normalement, c'est une moyenne, ça, on commence à se poser des questions existentielles et discuter de ces thématique avec n'importe qui, c'est un petit peu compliqué. Et la franc-maçonnerie est effectivement là pour pouvoir partager ces moments de réflexion existentielle.
Thierry Boya au téléphone de Colline Grasset. La conférence sur les 160 ans de la loge de franc-maçonnerie de Bienne aura lieu à 18h30. Le Parti socialiste Grand Chasseral se recompose pour mieux atteindre ses objectifs. On rappelle que le PSGC est né cette année de la fusion entre le PS Jura Bernois et Ensemble Socialiste. Il a tenu la semaine dernière son premier congrès ordinaire, pendant lequel il a complété son comité directeur et défini ses ambitions pour le futur. À la suite du départ de l'Imérien Théo Bran, le parti a notamment nommé son nouveau coprésident, Jérôme Benoît, jusqu'alors secrétaire. Un nouveau profil que Morane Riesen, coprésidente du parti, juge particulièrement intéressant.
J'ai un coprésident qui a vraiment d'excellentes qualités, qui a une grande motivation, engagement, un dynamisme qui fait du bien à ce parti et à la région. Et on est content d'avoir quelqu'un de sa stature pour avoir cette coprésidence.
C'est donc Jérôme Benoît qui a été élu à la coprésidence. À côté de vous, en quoi vous êtes tous les deux complémentaires?
Je pense qu'on amène différentes expériences, différents points de vue. Je pense que Jérôme amène aussi non seulement une très grande aisance en communication, en rédaction, mais aussi une connaissance pointue du réseau, notamment culturel, mais aussi beaucoup plus large de la région, sa fonction d'ancien délégué à la culture au CJB, sa fonction actuelle de directeur adjoint à Pro-Helvétia montre vraiment que il amène vraiment beaucoup de choses et je pense qu'en ce sens, on est bien complémentaires. Mais quelque part similaire dans notre motivation et dans notre engagement. Donc c'est un plaisir de travailler avec lui, en tout cas, et avec aussi tout le reste de l'équipe du bureau. On est très dynamique.
Morane Rizon, coprésidente du Parti Socialiste Grand Chasseral, répondait Tatiana Dacosta. La Lanterne Magique lance mercredi prochain sa nouvelle saison dans le Jura bernois. Une saison à la saveur particulière, son fondateur Vincent Haddad passe le témoin après avoir vu grandir son bébé durant plus de 30 ans. L'action qui a pour but d'offrir une première culture cinématographique aux tout-petits est née à Neuchâtel en 1992. Elle compte désormais 80 clubs de cinéma des 6-12 ans en Suisse et une dizaine à l'international. Le défi majeur de ces 30 dernières années a été de s'adapter à l'évolution du cinéma Vincent Haddad.
Alors, l'Internet Magique, elle a connu une révolution. C'était la révolution numérique. Quand on a commencé, c'était des grosses bobines qu'on devait envoyer par la poste dans toute la Suisse, voire même un petit peu plus loin. Maintenant, avec la dématérialisation et le numérique, c'est plus simple, c'est plus facile. Alors ça a été vraiment une grosse période d'adaptation parce que, en fait, tous les films n'ont pas été numérisés de façon régulière dès les années 2000. Donc, on a dû vraiment faire de la recherche, s'adapter, travailler parfois avec le Blu-ray, le DVD même. Mais aujourd'hui, ça s'est rentré dans l'ordre. Non, ce qui a beaucoup changé, c'est l'offre. Évidemment, il y a quelque part beaucoup plus de films, je dirais, destinés aux enfants. Donc, il faut savoir les sélectionner. Et donc, ça rend la mission de la Lanterne Magique encore plus précieuse. Et puis, les enfants, au niveau de la mentalité, ont un peu changé. Mais miracle, la salle obscure reste en fait sans doute un des derniers endroits au monde, on va dire j'exagère hein, à dessein, où un enfant arrive à se concentrer pendant une heure et demie, sans sortir, sans entracte, sans manger des pop-corn. Pourquoi ? Parce que le noir s'installe, l'écran, le app, et ça c'est la magie du cinéma.
C'était Vincent Haddad, fondateur de la Lanterne Magique. Et la 32e saison commence donc le 18 septembre à Tramelan et Bévillard. Elle se poursuivra également à Moutier et à Bienne. Le développement d'un nouveau système d'information agricole commun au canton de Berne, Fribourg et Soleure ne s'est pas déroulé comme prévu la première année. Les avancées ont été insuffisantes, indique ce matin la direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement. C'est pourquoi le canton de Berne a provisoirement suspendu ses travaux en concertation avec les deux cantons partenaires. Une analyse est en cours pour déterminer d'ici décembre la suite à donner à ce projet. On se dirige vers un double non lors des votations fédérales du 22 septembre. Selon le dernier sondage SSR, une majorité pense rejeter à la fois l'initiative biodiversité et la réforme du deuxième pilier. Le non atteint 51% pour les deux objets, mais de gros clivages sont observés dans certaines catégories de la population. Les précisions de notre correspondante à Berne, Marie Viomier.
L'initiative biodiversité est celle qui divise le plus. Le oui reste majoritaire en Suisse romande à 53%, alors que la Suisse alémanique et désormais la Suisse italienne pensent voter non. Les personnes qui vivent en ville ont clairement l'intention d'accepter l'initiative, alors que les habitants des zones rurales prévoient de la refuser. Les femmes s'expriment aussi largement en faveur de l'initiative, de même que les jeunes. Une majorité de 70% des personnes interrogées est sensible à la destruction de l'environnement, mais les partisans n'ont pas réussi à démontrer la nécessité de leur initiative. Selon les experts de l'Institut GFS Berne qui ont réalisé le sondage, la tendance vers le non devrait donc se poursuivre. Pour la réforme du deuxième pilier, le camp des opposants s'est nettement renforcé, particulièrement en Suisse romande, où 60% des personnes interrogées pensent voter non. Les femmes, les plus de 40 ans et les habitants des villes sont plus fermement opposés à la réforme. Le non a pris le dessus en raison de la complexité du projet et du comportement ambigu des femmes et de certains partis politiques, analysent les experts de GFS. Pour eux, le scénario le plus vraisemblable est un rejet le 22 septembre.
Les journaux de Tamedia ont aussi révélé les résultats de leur dernier sondage hier soir. L'ampleur du non est encore plus élevée avec 56% de refus pour l'initiative biodiversité et 59% pour la réforme de la LPP. La Suisse et 26 pays saluent les engagements des autorités provisoires au Bangladesh d'établir les responsabilités dans les décès pendant les protestations qui ont abouti à la chute du précédent gouvernement. Des centaines de personnes auraient été tuées cet été dans la répression des manifestants. Dans l'est de l'Allemagne, un pont s'est partiellement effondré au cours de la nuit à Dresde, sans faire de victimes. Une section d'environ 100 mètres du pont Carola, qui relie la vieille ville historique à d'autres parties de la ville, a plongé dans l'Elbe pour une raison encore inconnue. La zone entière a été bouclée et aucune circulation fluviale n'est autorisée, a déclaré sur X la police de Dresde. Une foire d'empoigne sur l'économie, l'immigration ou encore l'avortement. Kamala Harris et Donald Trump se sont affrontés cette nuit lors d'un premier débat télévisé au ton très offensif. Les deux candidats à l'élection présidentielle américaine de novembre se sont accusés mutuellement de mentir et ont confronté leur vision opposée du pays à moins de 2 mois du scrutin. Retour sur ce débat avec notre correspondant à Washington, Claude Porcella.
S'ils se sont serrés la main au début, ils s'en sont bien gardés à la fin. Et pour cause, pendant plus de 90 minutes, ils se sont copieusement insultés et n'ont pu s'entendre sur aucun des dossiers abordés. L'économie, par exemple, il veut réduire les impôts des milliardaires, elle veut réduire ceux de la classe moyenne. Il l'accuse d'être une marxiste, elle lui balance qu'il est en politique étrangère à la merci de ceux qui le flattent. Vous êtes, lui lance-t-elle, une honte. En fin de compte, le public n'a pas appris grand-chose de nouveau sur la politique des candidats. Kamala a répété en gros les thèmes qu'elle développe régulièrement dans ses meetings. Elle a toutefois été déclarée gagnante pour s'être comportée de façon présidentielle et pour avoir su viser les points faibles de son adversaire. Si Trump, au début, a bien défini sa politique économique et migratoire, son instinct coléreux a pris le dessus après les coups de griffe constants de la vice-présidente et il a donné l'impression d'un vieil homme furieux. Reste à voir si le débat va changer profondément la dynamique de la course, qui demeure très serrée, les candidats étant crédités de 49% des voix chacun.
Et dans la foulée de ce débat, la star de la pop américaine Taylor Swift a annoncé qu'elle allait voter pour Kamala Harris. Elle se bat pour les causes et les droits auxquels je crois, a-t-elle écrit. Sa publication a récolté plus d'un million de mentions j'aime en moins de 15 minutes. Merci d'avoir suivi ces informations. Prochain point avec l'actualité à 13h. Excellente suite de journée.